Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Elle a récemment réuni près de 2,5 millions de Français, un petit score pour cette femme au succès planétaire, puisque ses œuvres ont été éditées à 500 millions d'exemplaires. Elle, c'est Thérèse de Lisieux, cette carmélite aujourd'hui mondialement connue, ayant vécu à la fin du 19e siècle. Récemment, donc, le célèbre présentateur de télévision Stéphane Bern lui a consacré une de ses émissions appelée « Secrets d'histoire ». L'occasion de tenter de comprendre la petite voix de la confiance de cette femme qui fait qu'elle fut déclarée en 1997 33e docteur de l'Église, ces grands sages de Dieu. Sainte Thérèse, le grand succès d'une petite voix, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler avec nous, Pierre-Éliane, vous êtes prêtre religieux carme et donc aussi artiste, on le verra. Et parmi vos albums, il y a donc les albums de Thérèse Songs. On en écoutera des extraits à l'occasion de ces pauses musicales. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu dans nos studios pour nous parler de Thérèse de Lisieux. Alors c'est vrai que Thérèse de Lisieux, ça fait partie donc des... on va dire des grandes stars de l'Église, si je puis dire les choses comme ça, et surtout en fait des grands sages, donc dont la petite voix est à découvrir et redécouvrir, parce qu'on peut en parler et en fait avoir du mal à rentrer dedans. Si je fais le compte depuis que je suis arrivé à Radio Présence, à mon avis, on doit être au moins à la troisième ou quatrième émission, presque une émission par an, preuve qu'elle a du succès et que c'est pas si simple que ça de rentrer dedans. Alors on va commencer par la représenter ou refaire connaissance avec cette femme, mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce documentaire auquel vous avez participé, même si semble-t-il votre interview n'a pas été gardée, comme ça arrive à l'occasion de ces tournages, ce secret d'histoire de Stéphane Bern qui a été diffusé donc le 4 mai dernier sur France 3.
Oui.
Racontez-nous un peu les coulisses.
Je peux juste en quelques mots vous raconter l'histoire. Je ne connais pas l'histoire du documentaire lui-même, mais pour ma part, on m'a contacté et Antoine de Meaux, un réalisateur, est venu à Lyon où j'étais pour une série de concerts. Et nous avons fait toute une séquence enregistrée avec interview sur le décor magnifique de Fourvière. Et voilà, et je suis content parce que ça a été vraiment une belle rencontre avec cette équipe. Et le fait que la petite Thérèse intéresse la télé nationale, ben, c'est à pas louper pour un frère carme.
En tout cas, c'est, dit-on, un très bon documentaire, très bien construit,
oui,
avec
oui,
un propos très juste. On peut dire aussi, préciser pour que ça donne envie peut-être aux auditeurs de regarder le replay de ce documentaire, que pour la première fois, je crois, le Carmel de Lisieux a été ouvert, donc on a été filmé l'intérieur du Carmel et sa cellule. Et voilà, donc c'est un documentaire à voir et qui a, semble-t-il, aussi marqué le présentateur Stéphane Bern. Alors, Thérèse de Lisieux, donc née en 1873, morte à 24 ans en 1897, pour rappel. Aujourd'hui, elle fait partie d'une famille bien particulière, vous me le redisez en préparant cette émission, puisque ses parents sont saints, Louis et Zélie Martin. Je me demande même s'il n'y a pas des procès en béatification pour quelques-unes de ses autres sœurs.
Bah, Léonie, en tout cas, ça c'est sûr, qui a été visitandine au Mans. Et peut-être que bientôt, bah, il y aura une nouvelle Sainte Martin, Sainte Léonie.
Ça fait du monde. Si on doit reparler un petit peu de la famille de laquelle elle vient, ses parents Louis et Zélie Martin ont eu 9 enfants, 4 sont morts en bas âge, 5 filles. 5 filles fameuses, donc, puisque toutes sont devenues religieuses. Qu'est-ce que vous pourriez dire de son enfance ? J'ai souvenir d'un prêtre, c'était le père Pérousse, qui me disait à propos de Thérèse de Lisieux, mais elle a pompé l'amour, cette gosse, quand elle était petite. Est-ce que c'est la première chose qu'on peut dire de cette famille, c'est-à-dire que Thérèse a découvert, on va dire, l'amour ?
Il faut commencer par là, vous avez raison. Elle-même, elle dit que les 4 premières années de son enfance, donc 73-77, alors même que toute petite, elle a été malade et on a été obligé de l'emmener à la campagne pour qu'elle ait une nourrice. Mais ces 4 années de première de sa vie ont été les plus heureuses de ma vie, dit-elle. Oui, d'abord, elle a connu ce bonheur. Elle a connu ce bonheur d'être reçue, le bonheur d'exister, le bonheur d'exister dans une famille aimante, entourée, la petite cadette choyée, évidemment.
C'est la petite dernière.
La petite dernière, comme toujours. Et en même temps, ben voilà, c'est un soleil. Et c'est de ce soleil aussi qu'elle se nourrira comme une grâce, qu'elle chantera après comme une miséricorde du Père. Et Jean-Paul II, quand il est venu à Lisieux, a insisté sur le fait que Thérèse, ben, la voix d'enfant, c'est déjà la voix de quelqu'un, d'un enfant qui découvre la vie reçue, donnée par le Père.
Voilà, donc une expérience de l'amour inconditionnel extrêmement forte. Difficile après de ne pas parler de la mort de sa mère, puisqu'on essaye de parcourir à grands pas sa vie. Donc, Sophia, de ma part, elle a 4 ans et demi, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est justement un petit peu la sanction de cette période heureuse. Elle ne pleure pas, mais évidemment, elle est traumatisée. Et elle choisit une grande sœur, Pauline, comme sa seconde maman. Et comme vous le savez, Pauline, comme vous l'avez dit, va rentrer au Carmel. Elle va donc perdre successivement ses mamans. Et elle choisira, elle aura après une autre sœur, Marie. Et Marie également rentrera au Carmel. Donc tous ces deuils successifs vont créer chez la petite Thérèse vraiment une dépression très forte, une maladie mystérieuse dont elle sera guérie par le sourire de la Sainte Vierge, dit-elle. Et puis en même temps, cette angoisse de se demander si c'est bien le sourire de la Sainte Vierge qui l'a guérie ou pas. Mais déjà, toute petite, elle rentre dans l'épreuve. Elle rentre dans une vallée difficile.
Voilà, Noël, c'est à l'occasion d'un Noël, je crois que c'est 88, c'est ça, hein?
Oui, 80. Elle a donc.
Elle a la grâce, vous pouvez dire un mot de cette grâce qui est quand même très importante.
Ah, très important.
Un jour à Noël, elle vit une
pour
forme
elle,
de libération.
Elle rentre là dans la maturité. Elle dit qu'elle sort de l'enfance par la grâce de Jésus qui s'est fait, de Dieu qui s'est fait enfant dans la crèche. C'est un enfant qui l'a convertie. La petite séquence est très simple, elle est très émotive, elle pleure d'avoir pleuré. Et son papa, pour ce Noël, elle entend ces paroles de son père. Heureusement, c'est la dernière année. Évidemment, elle va éclater en sanglots et puis elle se reprend. Et cette conversion, c'est véritablement la force du courage, la force que réclame Thérèse d'Avila pour ses carmélites. Eh bien, le doux enfant d'une heure, le petit Jésus de la crèche, lui donne une force pour, comme elle le dit, entreprendre une course de géant. Et jamais je ne fus vaincu dans aucun combat. Quelle audace!
Quelle audace! Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de sa famille? Puisque ses parents donc, ont été déclarés saints, Louis et Zélie Martin. Donc Louis Martin s'est marié, je crois, assez tard. Il avait eu le désir de se consacrer. Au début de leur mariage, il voulait même vivre une espèce de chasteté et une continence perpétuelle. Et puis le prêtre qui les accompagnait les en a dissuadés. Bref, tout ça pour dire que c'était quand même des profils assez singuliers. Mais quand on dit qu'ils sont saints, ça veut dire quoi? Quelle était, je ne sais pas, leur charité, la charité des Martins, puisque normalement c'est ça la sainteté?
La sainteté, c'est le développement au plus haut point des vertus théologales, comme diraient les théologiens à Toulouse. On est avec une ambiance théologique, mais la sainteté, c'est avant tout répondre à l'appel de Dieu, se laisser transformer. Et là, soyons donc déjà thérésiens, les parents ont reçu cette grâce à travers beaucoup de souffrances, en particulier le papa, puisqu'il va terminer dans ce que pudiquement on n'appelait pas, à l'époque on l'appelait asile, c'est-à-dire il va avoir des...
Il perd la raison.
Il perd la raison, et c'est évidemment aussi toute une épreuve pour ses enfants, et particulièrement pour Thérèse. Sa maman a un cancer, elle va entreprendre un pèlerinage à Lourdes, mais comme vous l'avez dit... Elle va mourir en 1877. Eh bien, à travers leur parcours, ils ont reçu la puissance du Père qui les conduit comme des enfants de Dieu. Et ils ont découvert le mariage, la fécondité. En effet, après avoir essayé à leur façon de devenir saints, puis ils ont découvert que la sainteté, c'est quelque chose qu'on reçoit. Finalement, il n'y a qu'une sainteté, c'est celle du Christ, à condition qu'on ouvre son cœur.
Et à propos de leur charité, on a coutume de dire, enfin, j'ai lu à plusieurs reprises que voilà, toutes les personnes en difficulté, les plus pauvres, étaient les bienvenus chez eux, qu'il y avait une forme d'amitié, d'accueil profond. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, peut-être ?
Tout à fait. Dieu est le prochain. Il est évident que la famille Martin a toujours été ouverte sur les nécessiteux, sur les autres. C'est à la fois le contexte d'une famille chrétienne de l'époque qui avait véritablement une culture de la charité, si j'ose dire, avec en plus le charisme personnel et l'inventivité de la famille Martin. Il est évident que Madame Martin, qui faisait de la dentelle et qui avait avec elle des assistantes, là aussi, ne cessait pas d'avoir des gestes de charité, d'aide dans leur entourage. Et Monsieur Martin participait à sa façon, non seulement dans la paroisse, mais aussi dans son entourage à cette charité.
Alors Thérèse de Lisieux, donc, entre au Carmel à l'âge de 15 ans, ça fait quand même très jeune, je crois qu'elle a eu une autorisation spéciale de son évêque, même si j'ai lu là juste avant l'émission que bon, ça arrivait de temps en temps à l'époque. Elle a déjà des sœurs qui sont au Carmel, toutes ne sont pas encore religieuses. À la fin de sa vie, quand elle décède, je crois qu'une des sœurs, on a coutume de dire ça, disait « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire de cette petite Thérèse de Lisieux ? » Qu'est-ce qu'elle y a fait dans ce couvent ?
Rien.
Rien ?
Rien.
Une vie de carmélite comme on dit.
Elle a été très très gentille. C'est-à-dire qu'elle s'est laissée justement prendre totalement par cet amour qu'elle désirait. Cet amour infini. Elle insiste, elle écrit elle-même cet infini de l'amour et on la corrige. Parce que quand même, on ne doit pas prétendre, nous, petites créatures limitées, à l'infini de Dieu. Mais c'est elle qui a raison. Et elle sent que le cœur humain est fait pour l'amour infini de Dieu, qui s'appelle miséricorde. Et quand elle va écrire l'histoire d'une âme, à la demande de sa sœur...
L'histoire d'une âme qui est donc l'histoire de sa vie spirituelle.
Qui est l'histoire de son âme, justement. Maintenant, on l'appelle manuscrit autobiographique, mais c'est vraiment l'histoire de son âme. Elle commence en disant qu'elle ne sait faire qu'une chose qu'elle va faire, c'est chanter les miséricordes du Seigneur. Donc elle ne va pas se raconter, elle va raconter l'action de Dieu dans son cœur. Si on ouvre son cœur à Dieu, Dieu s'engouffre.
À propos de sa vie au Carmel, est-ce que vous pouvez nous parler, on va dire, de son humilité ou de la manière dont elle encaissait les humiliations ? Parce que la petite phrase que j'ai citée d'une des religieuses illustre aussi la manière dont elle a vécu en partie sa vie de carmélite, je crois, c'est-à-dire... C'était, on va dire, une des petites du monastère qui faisait des tâches ingrates et on se disait, bon, elle est sympathique celle-là, mais elle est un peu fragile, non, peut-être ? Est-ce qu'on...
C'est-à-dire que la petitesse et l'abaissement, on n'a pas le temps de développer, mais elle les reçoit aussi dans la tradition du Carmel et tout particulièrement avec Jean de la Croix, bien sûr dans l'Évangile. Constamment, elle est à l'affût des paroles de Jésus. Quand Céline amènera des bouts de Bible, si j'ose dire, parce qu'elle n'a pas... Mais à un moment, elle a l'Évangile, elle le porte toujours sur son cœur. Pour elle, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Jésus, aimer Jésus, faire aimer Jésus. Jésus prône la petitesse. Et cette petitesse, cet abaissement, elle le redécouvre, elle le reprend, elle le reçoit chez Jean de la Croix, le propre de l'amour, c'est de s'abaisser. Elle va profiter de toutes ces occasions d'humiliation, d'abaissement, pour aimer. C'est de l'ambition. La petite Thérèse n'est pas souffreteuse, résignée. Au contraire, pour elle, ce sont des mines d'or. Et le propre de l'amour étant de s'abaisser, elle s'abaisse chaque fois que c'est possible.
Elle décède donc en septembre 1897, elle a 24 ans. Pie XI dira d'elle donc que c'était l'étoile de son pontificat. Elle a été béatifiée, canonisée donc au début du XXe siècle, proclamée patronne secondaire de la France et donc docteur de l'Église en 1997 pour le centenaire de sa mort. Avant qu'on fasse une première pause, pourquoi est-ce que Thérèse est aussi actuelle? Pourquoi est-ce qu'elle a été déclarée docteur de l'Église? J'ai souvenir et j'aime bien redire ça, c'était un de vos frères, Carme, qui nous expliquait ça à l'antenne à l'occasion d'une émission, qu'à chaque grand défi ou chaque grand moment de l'histoire, Dieu susciterait en fait une sainte qui est une réponse aux problématiques d'une époque ou d'un temps ou à une tentation. Pourquoi est-ce que Thérèse de Lisieux est cette sainte à découvrir?
Mon frère a peut-être des informations que je n'ai pas. Oui, bien sûr, je le crois aussi, bien sûr. Il y a une providence, évidemment, dans l'histoire. La patience de Dieu dans l'histoire, disait Lustiger, et la petite Thérèse est un don pour le 20e, le 21e siècle, c'est sûr. Après, il y a Vatican II, donc il faudrait reprendre toute cette histoire. Oui, il y a une providence avec la petite Thérèse, mais pourquoi la recevoir et de mieux en mieux et de plus en plus? Parce qu'elle est parole de Dieu, un saint, c'est une parole de Dieu, ça c'est sûr.
On va faire une première pause et puis on va vous écouter en musique. C'est donc une de vos chansons où vous reprenez donc des paroles de Thérèse de Lisieux. La première, je vais vous laisser l'introduire.
Une rose effeuillée, c'est une prieure de Carmel qui avait appris que la petite Thérèse tournait bien des petites poésies, qui lui en demande une. Et la petite Thérèse écrit cette rose effeuillée qui veut se dépouiller pour Jésus. Et quand la mère prieure reçoit cette poésie, elle dit « c'est joli, mais il manque un couplet. » À la fin, Jésus prend tous les pétales et refait une belle fleur. Et la petite Thérèse, elle a dit ben, « si la mère prieure veut un dernier couplet, elle se l'écrira elle-même. Je veux rester effeuillée. » Et c'est là déjà tout le secret et l'humour de la petite Thérèse, c'est que le cœur reste ouvert au ciel. Le Sacré-Cœur ne se referme pas, ce Sacré-Cœur que nous allons célébrer. Elle veut rester effeuillée, elle veut rester donnée, elle veut rester justement abaissée.
Allez, on vous écoute.
Jésus, quand je te vois soutenu par ta mère, quitter ses bras, essayer en tremblant sur notre triste terre tes premiers pas. Devant toi je voudrais effeuiller une rose en sa fraîcheur, pour que ton petit pied bien doucement repose sur une fleur. Cette rose effeuillée, c'est la fidèle image, divine enfin, du cœur qui veut pour toi s'immoler sans partage à chaque instant. Seigneur, sur tes autels, plus d'une fraîche rose aime à briller. Elle se donne à toi, mais je rêve autre chose, c'est m'effeuiller. La rose en son éclat peut embellir ta fête, aimable enfant. Mais la rose effeuillée, simplement on la jette au gré du vent. Une rose effeuillée sans recherche se donne pour n'être plus. Comme elle avec bonheur, à toi je m'abandonne, petit Jésus. L'on marche sans regret sur des feuilles de rose, et ses débris sont un simple ornement que sans art on dispose, je l'ai compris. Jésus, pour ton amour, j'ai prodigué ma vie, mon avenir. Mon regard est mortel, rose, à jamais flétri. Je dois mourir. « toi je dois mourir, enfant beauté suprême, quel ressort. Je veux en m'effeuillant te prouver que je t'aime, ô mon trésor. Sous tes pas enfantins, je veux avec mystère vivre ici-bas. Et je voudrais encore adoucir au calvaire tes derniers pas.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Sainte Thérèse, le grand succès d'une petite voix, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On parle de Thérèse de Lisieux, donc cet auteur à succès, et puis ce personnage à succès du petit écran, après donc ce secret d'histoire de Stéphane Bern qui a été diffusé début mai. C'est l'occasion pour nous de reparler de cette grande sainte, et nous sommes avec Pierre Eliane ce matin, qui est prêtre religieux carmé artiste et auteur donc d'un album, je ne retrouvais pas le nom, Terrace Songs, donc, dont on vient d'écouter une des chansons. Dans cette deuxième partie, vous allez essayer donc de nous faire entrevoir encore et encore, puisqu'on essaye de le faire régulièrement à cette antenne, et puis pas qu'avec cette émission, la petite voix de Thérèse de Lisieux. Je me disais, c'est ce que je vous ai suggéré, qu'il était bon de commencer par rappeler quelques-unes des grandes grâces qu'a reçues cet enfant, cette jeune fille, décédée donc à 24 ans, puisque j'ai souvenir que dans le fond on dit de la vie spirituelle, et peut-être est-ce particulièrement le cas pour Thérèse de Lisieux, qu'on ne donne que ce que l'on a reçu dans le fond. Parlez-nous de ces grâces, et parlez du sourire de la Vierge par exemple, de cette guérison aussi de Noël 1888. Quelques autres grandes grâces, si vous deviez les citer, qui ont
Noël 86.
Hein, 86,
bon,
pardon.
Elle a 13 ans. Quoi, oui.
Quelles sont ces grandes grâces qu'elle a reçues étant jeune et qui ont marqué son âme?
Mais il faudrait reprendre, et là ce serait vraiment plusieurs émissions, je ne sais combien, comme disait Monseigneur Guy Gaucher, qu'il faudrait faire, pour voir cette dynamique, comment petit à petit la petite Thérèse s'ouvre totalement non seulement à la rédemption, mais à la sanctification, c'est-à-dire à l'œuvre créatrice de Dieu, en ouvrant à travers des épreuves son cœur à la puissance de Dieu. Alors on a vu Noël 86, c'est vraiment le tournant, elle devient vraiment une guerrière. D'ailleurs elle va plusieurs fois s'identifier à Jeanne d'Arc, qui n'est pas sainte encore à l'époque, mais elle va s'intéresser beaucoup à elle. C'est une guerrière, la petite Thérèse.
Donc la grâce de 86, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi la première partie, c'est donc une enfant qui a une forme de fragilité psychologique.
Tout à fait.
Qui est très très émotive, qui a du mal à maîtriser cette hypersensibilité.
Oui.
Et là, elle reçoit un don de force, en fait.
Un don de force, tout à fait, une confirmation. C'est vraiment un don spirituel. Et elle-même, toujours le mieux quand on veut écouter la petite Thérèse, ben c'est d'écouter ce qu'elle dit d'elle-même de la grâce reçue. Je ne sais faire qu'une chose, chanter les miséricordes de Dieu. Ce Noël 86 est évidemment un tournant. Et puis, il va y avoir la découverte de plus en plus, au fur et à mesure de sa vie, de l'action de Dieu dans son âme, dans le cœur des autres. Elle est maîtresse des novices en fonction, sinon elle n'est pas en titre, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de sœurs dans un couvent, donc elle n'a pas voix au chapitre. La petite Thérèse restera toujours petite. Elle n'aura jamais d'autorité. Et pourtant, elle aura déjà une fonction de maîtresse des novices, de guider les âmes, et donc de transmettre déjà de son vivant cette petite voix qu'elle découvre au fur et à mesure. Et tout particulièrement, elle la raconte lorsqu'elle découvre dans la parole de Dieu, chez Isaïe, ce qu'elle désire. J'ai toujours désiré d'être une sainte, mais j'ai toujours constaté que lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. C'est elle, le petit grain de sable. Et elle va découvrir que c'est ce grain de sable qui, justement, est plus propice à l'amour, à la puissance de Dieu, puisqu'il est tout petit.
Alors, avant que vous développiez davantage, je voulais dire, donc, il y a les grâces reçues, on en a cité quelques-unes, et puis les autres, vous dites, en effet, il faut creuser davantage sa vie, il faudrait peut-être beaucoup de temps pour en citer. D'autres, ça viendra peut-être au fur et à mesure. Je voudrais que vous nous parliez un peu des personnes qui ont été sur son chemin, parce que ce qui est assez frappant quand on regarde sa vie, c'est aussi qu'elle a, il y a eu donc sur sa route des personnes qui ont aidé à ce qu'elle libère, on va dire, pleinement son cœur, à ce qu'elle soit dans une très grande confiance. J'ai noté ce père Proulx, ce franciscain qui l'a accompagné, ou alors Pauline, donc, qui a été sa maman de substitution et après qui sera sa prieure, mère Agnès. Vous pouvez nous dire un peu ces hommes et ces femmes qu'elle a rencontrés et qui ont fait que son cœur est resté dans une certaine... j'allais dire innocence ou confiance de l'enfance, en tout cas, il y a la possibilité de se dire avec, avec entièreté.
C'est-à-dire, dans le désordre, c'est pas facile, hein, parce qu'il faudrait faire, encore une fois, toute cette chronologie de la grâce. Et il faut voir que les prêtres, pour elle, ça, je le dis avec humour, hein, ne le prenez pas au premier degré, mais les prêtres ont toujours été, pour elle, plutôt un obstacle. Ça ferait plaisir peut-être au pape François, en tout cas. Les sermons l'ennuyaient ou alors la terrorisaient. On est quand même encore dans le post-jansénisme. Quand elle fait un pèlerinage à Rome pour aller jusqu'au pape, pour pouvoir rentrer toute jeune, vous l'avez souligné, à 15 ans au Carmel, eh bien là encore, elle voit les mœurs qui sont parfois mondaines du clergé. Mais évidemment, il y a aussi des rencontres providentielles. Ce père Proulx que vous avez mentionné, qui la lance sur les flots de la confiance. Ce père, si vous voulez, c'est un prédicateur pour la communauté de substitution, de remplacement, il n'y avait pas. Et lui...
La communauté du Carmel, donc.
Pour la communauté de son Carmel, voilà. Et là, il plaît à personne, a priori, mais elle... Prof, elle est touchée et tout d'un coup, elle entend la confirmation de ce qu'elle pressent. C'est la confiance, rien que la confiance, qui mène à l'amour. Alors, elle est lancée, comme elle dit, sur les flots de cette confiance.
Mère Agnès aussi, donc, qui était sa sœur, qui devient prieure, ça.
Alors,
ça
Mère Agnès, c'est plus difficile parce qu'à la fois, Mère Agnès a été sa seconde maman, Pauline, donc. Mais en même temps, Pauline, qui est élue prieure à un moment du Carmel de Lisieux, ne comprend pas tout de suite sa petite... Elle pressent que dans son cœur se passe quelque chose, mais lorsqu'elle lui demande, un exemple, lorsqu'elle lui demande de raconter les grâces, de faire un petit cahier, parce qu'elle pressent bien que sa sœur est malade et va peut-être pas rester longtemps avec elle, eh bien, la petite Thérèse lui donne son cahier avec obéissance. La petite Thérèse, la Pauline le met dans un tiroir. Elle le lit même pas, elle... Vous voyez, il y a une certaine incompréhension, pas du tout volontaire, mais une ignorance, disons. Et c'est après coup que Pauline découvrira le secret de la petite Thérèse.
Alors comment est-ce que Thérèse de Lisieux, on va dire, saute le pas de rentrer dans cette confiance radicale ? Il y a, semble-t-il, un moment dans sa vie où elle s'offre à l'amour miséricordieux. Est-ce que c'est ce moment-là, on imagine que dans toute vie de saint, il y a des grandes bascules pour elle. Comment se fait cette bascule ?
Et bien, cette bascule, comme vous le dites, elle se fait justement en sautant dans un gouffre. Et ce gouffre, c'est celui de la miséricorde dans les bras de Jésus. Et je vous signale que demain, 9 juin, ce sera l'anniversaire, justement, de la consécration à l'amour miséricordieux qu'elle a fait le 9 juin 1895. Alors, elle le découvre, cette voie d'enfance.
Comment ça se passe ? C'est-à-dire, comment ça lui monte dans le cœur, cette décision ? Et puis, qu'est-ce qu'elle en dit ?
Elle découvre que, encore une fois, c'est par sa misère et sa petitesse qu'on touche le plus le cœur de Dieu. C'est quand on est pauvre, pauvre et sans rien. Il y a une séquence significative lorsque, en 97, à la fin de sa vie, une grande sœur, Marie du Sacré-Cœur, va lui demander des extraits de sa retraite, de ses petites notes. Une carmélite, quand elle faisait sa retraite, elle fait un petit journal, si vous voulez, un petit feuillet. Thérèse va lui donner, c'est ce qu'on appelle le manuscrit B. Et dans ce manuscrit B, Thérèse chante l'Esprit Saint dans son cœur. Ça veut dire qu'elle veut être coupée en petits morceaux, elle veut être rôtie des deux côtés, elle veut être zouave pontificale, elle veut être prêtre, elle veut être tout, elle veut être rien. Bon. Autrement dit, elle laisse l'amour la dévorer. Le mot folie chez la petite Thérèse est très important. Marie du Sacré-Cœur, lorsqu'elle reçoit ce manuscrit B, alors c'est très intéressant pour nous parce qu'elle dit « Je suis effarée. Je redoute tout ce que vous aimez. » Et ça permet de faire une mise au point très importante, essentielle pour répondre à votre question de la petite Thérèse. Elle dit « Oh là là, vous m'avez demandé, moi je vous ai donné. Mais ce n'est pas du tout cela que le bon Dieu aime dans ma petite âme. Ce qu'il aime, c'est que j'aime ma petitesse et ma pauvreté. Mais donc, pour cela, il faut être bien pauvre. »
Donc elle a à la fois de très grands désirs.
Oui, parce qu'elle est vide, parce qu'elle est pauvre.
Et en même temps, son point d'appui, c'est sa pauvreté.
C'est sa pauvreté.
Et donc elle décide de s'offrir à l'amour miséricordieux. Ça veut dire quoi en fait?
Alors, s'offrir à l'amour miséricordieux, c'est s'offrir justement à la puissance de l'amour de Dieu qui brûle, qui dévore, qui transforme en feu, comme elle dit, ce néant. Alors, néant n'est pas chez les zen, c'est cette misère. Et Jean-Paul II, à Dives in Misericordia, Dieu riche en miséricorde, a relancé justement cette découverte du cœur de l'Église. Comme vous le savez, que la petite Thérèse veut habiter en tant qu'amour. Et le secret même de l'amour, c'est la miséricorde, c'est l'abaissement, c'est l'amour gratuit. Mais pour recevoir cet amour gratuit, eh bien, il faut être sans force. Ce n'est pas du laxisme, attention. Il y a une image de la petite Thérèse très importante qui est de lever son petit pied. C'est comme un enfant pour monter vers sa maman qui est en haut des escaliers. Mais dit-elle, il ne franchira jamais une marche. Alors ça donne une équation paradoxale. Il s'agit de se fatiguer, mais pour chanter, pas pour réussir. Parce que si vous vous fatiguez et que vous montez des marches, vous avez votre récompense, pas besoin de Dieu. Puis évidemment, si vous ne vous fatiguez pas, vous avez aussi votre récompense. La petite Thérèse est un épuisement lyrique de l'amour.
Pourquoi est-ce que c'est si difficile à comprendre, Pierre-Éliane?
Parce qu'il faut le vivre et que tout y passe.
C'est-à-dire?
Eh bien, il faut être rien, c'est la première des béatitudes, ça tombe bien. Aujourd'hui, l'évangile, je crois, c'est l'évangile des béatitudes. Makari, ptochito, pneumati, heureux les indigents, ceux qui n'ont rien, les enfants de l'esprit, je dirais, on traduit les pauvres de cœur. Heureux, c'est une béatitude, mais pour cela, il faut être sans rien. Or, on aime bien quand même avoir un petit quelque chose, je suis pas trop mal quand même, ou on aime bien que les autres aient un regard flatteur, ou vis-à-vis de soi-même. Non, il y a une radicalité de la pauvreté, mais attention, cette pauvreté, elle est tout de suite la découverte d'un amour qui nous a voulu et qui nous attend.
Alors, est-ce que vous pouvez faire le parallèle avec la... Parce que la petite voix, souvent, on l'appelle la petite voix de l'enfance.
Mm-hmm.
L'enfant, certes, est dans une forme de relation de dépendance avec son père et sa mère. Et si on fait le parallèle avec la vie spirituelle, il n'a pas toujours conscience de sa petitesse ou de sa misère. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la petite voix de l'enfance?
Cette petite voix de l'enfance, c'est justement la voix de quelqu'un qui n'a pas la parole. C'est la voix du Fils. C'est celui qui, à la fois, est Dieu et en même temps sera toujours radicalement le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Et c'est, si j'ose dire, puisqu'on vient de fêter la Trinité, dans la Trinité, il y a une radicale dépendance de chaque personne, et évidemment une unité extraordinaire, enfin indissoluble, mais en même temps, le Fils est toujours reçu du Père. C'est bien ce qui caractérise l'enfance. Et c'est ce que la petite Thérèse découvre, c'est que l'enfance n'est pas simplement une piété, un mode de vie, c'est un secret trinitaire. Et en ce sens, elle rejoint Jean de la Croix. Il faudrait avoir le temps de développer. Mais par la voie d'enfance, elle pénètre dans le secret trinitaire des relations entre les personnes. La radicale, j'allais dire, pauvreté des personnes, si j'ose m'exprimer ainsi, l'une vis-à-vis de l'autre.
Pour nous, ça veut dire quoi? Du coup, ça peut vouloir dire quoi? C'est-à-dire que, donc, accepter sa misère et d'une certaine manière, ne pas choisir un autre chemin, mais la voie de l'enfance spirituelle, c'est...
Bah, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il me semble, à moins qu'il y ait des exceptions, que nous avons tous un petit nombril sur le ventre. Ce qui veut dire que ce n'est pas nous, et c'est le grand combat avec le monde aujourd'hui, l'homme voudrait s'auto-fonder, sans parler du transhumanisme, hein, il voudrait sa propre origine. Eh bien, accepter que quelqu'un d'autre soit notre origine, c'est reconnaître la paternité de Dieu. Et donc, l'enfance.
Avant qu'on fasse une deuxième pause, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de quelques-unes des tournées que vous avez fait avec les reliques, puisque donc, peut-être certains ne le savent pas, mais il y a donc des reliques de Thérèse de l'Enfant Jésus qui tournent en France et dans le monde, et ce depuis des années. On dit que c'est une des saintes qui voyage le plus, on va dire, post-mortem, probablement à l'image de ses écrits, hein, qui ont été autant publiés. Je ne sais pas ce que, surtout peut-être les choses vues et entendues à l'occasion de ces tournées
Il y a d'abord le fait que, comme le soulignait Guy Gaucher, qui accompagnait beaucoup les reliques,
Gaucher, c'est l'ancien évêque de Bayeux-Lisieux, qui est aujourd'hui, qui a beaucoup écrit sur Thérèse de l'Enfant.
Qui a beaucoup fait pour son doctorat, qui a accompagné véritablement cette redécouverte de l'héritage thérésien. Elle a pris tous les moyens de locomotion. Elle a été en hélicoptère, elle a été en traîneau, elle a été partout.
Elle a été partout dans le monde.
Elle a été au fond des prisons. Elle a été partout. Elle a été en pays musulman, elle a été sur tous les continents, évidemment. Et donc, moi, j'ai eu la grâce, de temps en temps, d'accompagner les reliques de la petite Thérèse pour donner à entendre ces poésies qui sont des chansons et qui sont un patrimoine à écouter. Il est bien de lire des livres, mais il est bon d'écouter les saints, d'écouter la parole de Dieu à travers les saints. Et ces poésies, bien sûr, étaient composées sur des musiques de l'époque. Je me suis permis d'essayer de les donner dans une culture plus contemporaine, qui vieillira aussi, mais peu importe. Si le contenant vieillit, le contenu, lui, ne bouge pas. Et il est fantastique de pouvoir entendre, d'écouter la petite Thérèse aujourd'hui.
Mais juste à l'occasion de ces tournées, de ces reliques, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire,
On fait des concerts, des veillées spirituelles. Ça peut terminer par un temps d'adoration.
Mais quid de la dévotion à ces reliques qui peut paraître un peu étrange à nos contemporains?
Il y a beaucoup de façons. Il y a une vénération qui peut se faire. Ponctué, si vous voulez, par des chansons de Thérèse. Il y a des enseignements, il y a évidemment une liturgie, il y a des messes. Il y a beaucoup, beaucoup de variétés. C'est extraordinaire. Thérèse rejoint... Ça me fait penser... Vous savez que... Comment il s'appelait, lui le champion de boxe, Marcel, je sais plus quoi, de copain d'Edith Piaf de l'époque.
Oui, ça me revient pas.
A fait le championnat du monde avec une médaille de la petite Thérèse autour du cou. Ça s'invente pas, que lui avait donné Edith Piaf parce que elle était fort dévote. Elle avait toujours l'image de la petite Thérèse dans sa loge. Donc vous voyez, la petite Thérèse touche aussi bien à droite comme à gauche. Des progressistes comme des conservateurs. Et bien, c'est ça là qui se passe autour des reliques de la petite Thérèse. On retrouve véritablement le sens du corps de l'Église. Toucher le corps de Thérèse, c'est toucher le corps du Christ, c'est toucher le corps de Dieu.
Allez, on va vous écouter à nouveau pour cette deuxième pause musicale. Et puis, on va vous retrouver à la fin pour essayer de nous donner quelques pistes pour devenir plus familier de Sainte Thérèse de Lisieux et de sa petite voix.
Tu m'as caché pour toujours en ta face, divin Jésus, daigne écouter ma voix. Je viens chanter l'inexprimable grâce d'avoir souffert, d'avoir porté la croix. J'ai bu longtemps au calice des larmes. J'ai partagé ta coupe de douleur. Et j'ai compris que souffrir a des charmes, que par la croix on sauve les pécheurs. C'est par la croix que mon âme a grandi, a vu s'ouvrir un horizon nouveau. Sous les rayons de ta face bénie, mon faible cœur s'est élevé bien haut. Mon bien-aimé, ta douce voix m'appelle. Viens, me dis-tu, déjà l'hiver a fui. Pour toi commence une saison nouvelle. Enfin le jour va remplacer la nuit. Lève les yeux vers la sainte patrie et tu verras sur des trônes d'honneur un père aimé, une mère chérie auquel tu dois ton immense bonheur. Comme un instant s'écoulera ta vie sur le Carmel, on est tout près des cieux. Ma bien-aimée, mon amour t'a choisi, je te réserve un trône glorieux.
À Luchon, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Sainte Thérèse, le grand succès d'une petite voix, c'est pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, et on écoutait à l'instant une chanson donc de Pierre Eliane, prêtre religieux carme et donc artiste et auteur d'un album appelé Thérèse Songs. Pierre Eliane qui met en musique donc certains des poèmes des grands mystiques du Carmel notamment, et donc entre autres Thérèse de l'Enfant Jésus. Comme on essaie de le faire dans ces émissions où on parle de grandes figures qui peuvent être très intimidantes et qui peuvent laisser un peu les bras ballants parfois pour le moment en sortant de ces émissions. Pierre Eliane, qu'est-ce qu'on a comme piste pour faire des pas? Tout simplement commencer par se plonger peut-être dans Histoire d'une âme. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était l'histoire de son enfance et de la vie de son âme. C'est donc sa mère prière qui lui a demandé de l'écrire. Elle avait 22 ans. Si vous deviez nous parler un peu plus de ce grand succès de librairie.
D'abord dire qu'il y a trois manuscrits, on les appelle aujourd'hui les manuscrits autobiographiques. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce sont des petits cahiers. Hein. Il y a une première partie qui est faite pour Pauline Et puis une deuxième partie qui est un petit peu la très importante, le manuscrit C, qui est demandé par la prieure suivante. Et à cela, on a ajouté cette retraite, dernière retraite dont je vous ai parlé, que Marie du Sacré-Cœur voulait avoir. On a donc A, B, cette retraite, et puis le manuscrit C. Et tout cela chante les miséricordes de Dieu, et très important dans le manuscrit C, la découverte de la charité fraternelle. Alors là, on rentre dans le concret, si j'ose dire, de la pratique thérésienne des petites choses, la réalisation dans les petites choses. Faire un sourire à quelqu'un lorsqu'on n'en a pas envie. Il y avait une sœur, dit-elle, qui avait l'art de me déplaire en tout. Vous voyez que la petite Thérèse est franche. Eh bien donc, elle lui faisait ses plus beaux sourires. Était-elle hypocrite ?
À tel point que la sœur croyait qu'elle
elle était elle sa préférée.
Elle l'aimait énormément.
Voilà. Donc méfiez-vous si la petite Thérèse vous fait des sourires. C'est toujours ma conclusion, parce que... Et donc, vous voyez, ces petits moyens, ils existent tout au cours d'une journée, des petits renoncements, accepter une critique, une petite humiliation, un retard.
Avant d'en venir aux moyens spirituels, peut-être de la suivre, donc sur les pistes, donc on peut commencer par la lire, donc ce sont les œuvres complètes avec ces manuscrits A, B et C.
Voilà, sinon, il y a bien sûr...
Si on ne peut pas lire, on va dire, les trois manuscrits, l'autre porte d'entrée plus petite, c'est donc quand même de lire l'histoire d'une âme, non ?
Oui, bien sûr, mais l'histoire d'une âme, c'est ça, c'est la même chose. Mais tout ça existe, encore une fois, en livre de poche, à des prix divers et variés. Et puis, bien sûr, il y a les œuvres complètes, où là, on retrouve les autres écrits de Thérèse, qui sont ses poésies. On l'a mentionné, une bonne cinquantaine, un peu plus. Il y a les lettres, la correspondance, très important, parce que dans sa correspondance... Il y a vraiment déjà la petite Thérèse docteur qui accompagne les gens avec qui elle est en relation, et en particulier deux prêtres qui lui seront confiés à la fin de sa courte vie, et qu'elle sait vraiment avec finesse et bien entendu avec l'Esprit Saint guider vers Dieu. Et puis il y a les récréations pieuses, des petites scènes de théâtre, en particulier... Jeanne d'Arc, il faut voir la créativité de Thérèse. Dans son Carmel, elle a vraiment fait œuvre d'écrivain, si on peut dire. Et cette œuvre-là a longtemps été méprisée dans son côté divertissant, une récréation, des poésies, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Or là, il y a souvent une quintessence de son enseignement. La rose effeuillée en est un bon exemple, mais le chant de reconnaissance de la fiancée de Jésus aussi. Il a été fait pour le chant qu'on vient d'écouter, pour la prise d'habit de Céline. On n'en a pas trop parlé de Céline, mais qui est la sœur juste avant elle, qui s'est occupée de son papa jusqu'à sa maladie, et qui est finalement rentrée au Carmel. Et à chaque fois, si vous voulez, dans les écrits de Thérèse, il y a des mines d'or.
Donc le mieux est de la lire.
Oui.
Voilà, et de se laisser prendre par la main.
Et si j'ose dire, de l'écouter.
Et de l'écouter. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme piste, Pierre?
Alors, il y a beaucoup de spirituels et non des moindres qui ont écrit sur la petite Thérèse pour nous guider. Je pense à Victor Sillon, le réalisme de la petite Thérèse. On pourrait caractériser la spiritualité par cette expression, le réalisme spirituel. À la fois les pieds sur terre, ça c'est très carmélitain, avec la grande Thérèse, les choses concrètes, et en même temps, à travers les choses concrètes, la vie mystique.
La grande Thérèse, c'est donc Thérèse d'Avila.
Voilà.
Parce que chez vous, il y a la grande et la petite.
Voilà, mais s'il y a une petite, c'est aussi parce qu'il y a une grande.
On peut aussi aller à la basilique de Lisieux, hein, je le dis, et j'ai vérifié avant cette émission qui est à nouveau ouverte. Donc, il n'y a pas de souci, elle vous accueillera cet été. Allez sur les lieux, puisque c'est une spiritualité concrète, ça peut aider. Hein,
bien sûr.
Voir où elle a habité, et puis se promener. On peut évidemment regarder ce secret d'histoire donc, qui a été présenté par Stéphane Bern. Pour finir, vous vouliez donner un peu la parole à Thérèse de Lisieux. Quelques verbatim pour nous persuader de l'écouter après vous avoir écouté en parler.
Bien, en parlant de verbatim, il y a justement là encore un autre... une expression écrite, mais qui sont les paroles de Thérèse qui ont été recueillies à l'infirmerie, ses dernières paroles, novissima verba, et pendant les derniers mois de sa vie. Alors c'est très très précieux, parce que là c'est Thérèse en direct, en train de se livrer à l'amour, et en train d'enseigner aussi. Par exemple, « Je lui demandais des explications sur la voie qu'elle disait vouloir enseigner aux âmes après sa mort. » Donc c'est une sœur qui lui pose la question. Réponse de la petite Thérèse. Alors là, en l'occurrence, c'est à Pauline. « Ma mère, c'est la voie de l'enfant spirituel. C'est le chemin de la confiance et du total abandon. Je veux leur enseigner les petits moyens qui m'ont si parfaitement réussi, leur dire qu'il n'y a qu'une seule chose à faire ici-bas, jeter à Jésus les fleurs des petits sacrifices, la rose effeuillée, le prendre par des caresses, ça c'est très audacieux aussi, faire des bisous, c'est très important dans la vie spirituelle. C'est comme cela que je l'ai pris et c'est pour cela que je serai si bien reçu. »
Donc elle était sûre de ce qu'elle allait trouver, c'est ce qu'on entend aussi. Si vous permettez, je finirai par une autre citation moi, que j'ai trouvée d'elle très belle, qui dit quelque chose donc, de cette voix que vous avez essayé de nous présenter. Comme Madeleine, et en l'occurrence c'est la Marie-Madeleine qui va au tombeau de Jésus, comme Madeleine se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait, ainsi m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevais si haut que je pus atteindre mon but. » Quelle audace de dire tout ça. Et ben merci beaucoup Pierre-Eliane d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour nous parler de cette grande sainte Thérèse de Lisieux. Un grand merci à vous.
Merci.
Et puis on peut redonner le titre de votre album que l'on peut trouver probablement encore dans certains bacs ou certaines grandes enseignes, Thérèse Songs de Pierre-Eliane. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.